On va remettre ce temps d'étude à Dieu dans la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, encore une fois, nous voulons reconnaître que tout ce que nous faisons, ça dépend de toi, Seigneur. Tout ce qui a une portée spirituelle, réelle, tout ce qui est bon, tout ce qui est de dimension éternelle, Seigneur, ça doit venir de toi. Et Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons pour te demander de nous aider par ton Esprit Saint à comprendre et à recevoir ta parole. Elle est la vérité, sur elle nous pouvons fonder nos vies. Et Seigneur, tu l'as inspirée par cet Esprit Saint à des hommes qui l'ont écrite sous ta dictée. Et Seigneur, ce même Esprit Saint veut maintenant nous la révéler, veut la rendre vivante à nos cœurs, Seigneur. Merci Seigneur que cette parole, c'est pas une lettre morte, c'est pas un vieux texte antique, mais au contraire Seigneur, elle est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle dit, ta parole nous dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci pour cette puissance de ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle est vivante et qu'elle, tu veux qu'elle puisse transformer nos vies et nous préparer à toute œuvre bonne, Seigneur. Elle nous reprend, elle nous encourage, elle nous équipe. Seigneur, merci de l'avoir transmise jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, où nous pouvons la lire, la méditer, l'étudier et surtout, Seigneur, la mettre en pratique pour le bien de nos âmes, Seigneur, et pour la vie éternelle. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Et ce matin, nous voulons penser à toutes les églises, Seigneur, où cette parole est annoncée, qu'elle le soit avec puissance et vérité, Seigneur. Que ceux qui t'adorent en esprit et en vérité soient bénis, Seigneur. On prie pour les églises de la ville. Merci pour nos frères. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous prions aussi pour les églises de la région, de toute la France, Seigneur. Notre pays, nous le voyons bien, a tellement besoin de vérité et de la puissance de l'Évangile, Seigneur. Nous te le remettons, Seigneur, pour que tu fasses une œuvre qui, si on nous l'annonçait, on ne le croirait pas, Seigneur. Parce que c'est ta volonté. Tu aimes tous ces Français, Seigneur. Tous ces gens qui vivent en France, Seigneur. Quelle que soit leur origine, et tu veux les toucher, tu veux les bénir par une révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Sois béni ce matin, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous invite à vous tourner dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6. Si vous avez besoin d'une Bible, vous pouvez lever la main et on vous en apportera une. Voilà, je vais lire et on va se lever pour lire la parole. On va lire le Hébreu, le chapitre 6, on va lire les versets 9 à 20. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même, en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patience, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'entre eux, et le serment est une garantie qui met à fin toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On ne va pas le faire maintenant, autrement que par la pensée, mais si je vous demandais ce matin quel est votre passage favori dans la Bible, les réponses les plus communes, ce serait peut-être le psaume 23. Ce serait peut-être la prière de Jésus à son Père, qu'on appelle le Notre Père, ou peut-être un passage obscur qui vous a parlé et qui vous encourage quand vous y pensez dans votre vie chrétienne. Pour moi, un de mes passages favoris, parce qu'ils sont tous formidables. Et quand on commence à apprécier la Bible, on s'aperçoit que le passage le plus important, c'est le passage qu'on a sous les yeux. Parce que c'est celui que Dieu a permis, qu'il a permis cette rencontre de vos yeux, de votre intelligence, de votre cœur avec ce que vous avez sous les yeux. Mais un des passages qui m'a toujours beaucoup encouragé, c'est Jérémie au chapitre 29. La promesse que Dieu faisait aux Juifs qui avaient été déportés de Jérusalem à Babylone, par le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, comme on disait dans les anciennes versions de la Bible, ce roi de Babylone. Et il leur disait, verset 11, Jérémie 29, 11, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Je vous l'affirme. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Et puis il continuait, Dieu continue par l'intermédiaire de son prophète Jérémie, en disant, versets 12, 13 et 14, « Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, je vous l'affirme. » Cette promesse qui était destinée, on l'a vu rappeler dans le contexte du chapitre 29, aux Juifs déportés de Jérusalem à Babylone, pour moi, elle s'applique aussi à tout le peuple de Dieu. Elle s'applique à tous les hommes qui viennent rechercher Dieu, qui le cherchent de tout leur cœur et qui trouvent, ce qui est formidable, un avenir fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance. Et souvent, on a une vision un peu palichonne, un peu faiblarde, un peu faible, un peu négative de l'espoir. On dit J'espère un jour gagner au loto. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça serait vraiment chouette si d'un seul coup tous mes ennuis financiers pouvaient être résolus d'un coup. Imaginez un petit bout de papier, un tirage au sort et bim, c'est moi qui gagne. En fait, ce serait peut-être la fin de certains ennuis financiers, mais ce serait le début d'autres ennuis financiers. Parce que si on vous donne 100 millions d'euros, d'un seul coup, vous allez avoir plein d'amis, vous allez avoir plein de gens qui vont vouloir vous conseiller et vous allez perdre du sommeil parce que vous allez vous demander qu'est-ce que je vais faire de cet argent. Mais l'espoir dont il est question, ou l'espérance, c'est le même mot dans le texte original en grec. L'espérance ou l'espoir, c'est le fait d'attendre ce qu'on désire avec confiance. On sait que ça va arriver et on peut être ferme, on peut se réjouir dans l'attente de quelque chose qui va arriver. Est-ce que vous avez des espérances dans votre vie? Est-ce qu'il y avait des choses où vous dites « ça va arriver » Si vous êtes croyant, vous savez qu'un jour vous allez vous retrouver en présence du Seigneur, dans la gloire de Dieu. Vous dites « c'est un peu trop loin ça, mais quelqu'un disait négativement « il n'y a que deux choses de sûres dans la vie, ce sont les impôts ». Les impôts et la mort, c'est pas très gai. Mais il y a des choses dont on est sûr qu'elles vont, se réaliser, où on les désire avec confiance. On a des promesses. Et dans la sagesse populaire, il y a un proverbe qui dit que tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Et c'est vrai dans le sens où la mort anéantit l'espoir que notre vie ici-bas va s'améliorer. Tant qu'un malade n'est pas décédé, il y a toujours un espoir, une lueur d'espoir de le voir guérir. Ça, c'est le premier proverbe. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis il y a un autre proverbe qui semble peut-être plus juste, qui me semble plus juste, qui dit que l'espoir fait vivre. On pourrait reformuler la première proposition en disant « Où il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Et le second, ce serait « Où il y a de l'espoir, il y a de la vie. » Et je vais faire allusion à une expérience de psychologie qui a été réalisée dans l'université de Duke aux États-Unis, qui montre vraiment que l'espoir fait vivre. Et je vous demande pardon à tous ceux qui m'ont entendu déjà répéter cette illustration, cette expérience, de nombreuses et nombreuses fois, en rappelant qu'on ne peut pas nécessairement extrapoler la psychologie, la réalité humaine à la psychologie animale. Mais en même temps, c'est une expérience qui fait réfléchir. Vous savez que on dit que la psychologie produit des souris ou des rats. Parce que les psychologues ont pris l'habitude de faire des expériences justement avec ces petits animaux, des mammifères, qui, par certains aspects, peuvent donner des informations sur la vie humaine. Et donc, ils ont placé des rats dans un grand aquarium et puis ils ont fait monter le niveau d'eau dans l'aquarium. Ils ont commencé à laisser couler l'eau qui s'est accumulée dans le fond de l'aquarium et les rats n'étaient pas très contents qu'on les inonde. Mais ça commençait à augmenter, au point où ils ont dû commencer à nager pour survivre. Et bien sûr, quand ils font ces expériences, les psychologues ont des blouses blanches, des chronomètres, et ils ont compté le temps pendant lequel les rats ont nagé. Et en fait, au bout de simplement 17 minutes, c'est déjà long pour un rat, les rats se sont laissés mourir. Ils ont arrêté de nager et ils sont morts noyés. Puis les psychologues en blouse blanche avec des chronomètres, ils ont toujours un groupe témoin, ils ont plusieurs groupes pour faire des expériences et comparer les résultats. Ils ont pris des rats de la même espèce, qui étaient des copains des premiers, et ils leur ont fait subir la même épreuve. Seulement, au bout de 15 minutes, ils ont refait descendre l'eau, ils ont vidé l'eau, ils ont ainsi sauvé les rats, entre guillemets. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Avec les mêmes rats, ils ont alors fait remonter le niveau d'eau jusqu'à ce que ces rats soient forcés de nager pour survivre. Et là encore, ils ont déclenché le chronomètre. Au bout de 17 minutes, surprise, les rats ont continué de nager. Au bout d'une heure, ils pédalaient toujours dans l'aquarium. Au bout de 2 heures, ils continuaient. Au bout de 10 heures, ils ne s'étaient toujours pas arrêtés. Au bout de 17 heures, ils nageaient toujours, 60 fois plus longtemps déjà que le premier groupe. Au bout de 24 heures de prière, ils devaient prier très fort. Ils nageaient toujours. Au bout de 34 heures, 120 fois plus, ils nageaient encore. Au bout de 37 heures, ils ont fini par mourir, probablement d'épuisement. Ça représente 130 fois plus longtemps que le premier groupe. Et la seule différence, c'est qu'au bout de 15 minutes, on leur avait apporté de l'aide. On leur avait dit en quelque sorte, continuez de nager, le secours arrive. C'était la seule différence, c'était l'espoir qu'un premier sauvetage avait appris à ce deuxième groupe de rats. Alors, on a le récit de personnes, d'êtres humains qui ont fait des choses incroyables parce qu'ils avaient justement cette espérance. Je me souviens d'un matelot soviétique sur un bateau qui était passé près du Canada et qui avait plongé et qui avait nagé aussi pendant plus de 24 heures ou 48 heures parce qu'il voulait arriver à la liberté. L'âme humaine a besoin d'espoir, elle aussi. Si on vous enlève tout espoir, on devient désespéré, sans espoir, et ça peut aller jusqu'au suicide si vraiment il n'y a pas d'espoir. Pensez à ce qui motive les gens dans la vie. Ça peut être l'espoir de réussir un examen quand on est étudiant ou jeune, d'avoir une bonne carrière, l'espoir d'être médecin, d'être homme politique. Il y en a encore qui espèrent cela. L'espoir de trouver l'âme sœur, l'espoir de fonder une famille, d'apprendre à jouer de la musique, de devenir peut-être un musicien célèbre, une artiste. Et nous avons tous, quelque part, des espoirs, des espérances. Qu'est-ce qui fait le matin que quand vous levez, plutôt que vous ne restez pas couché au lit? C'est un signe de dépression, justement, lorsqu'on n'a plus rien qui nous motive. Mais on va voir ce matin que le chrétien n'a plus à redouter le désespoir. Sa vie Elle est ancrée dans l'espoir. Dieu nous donne vraiment cet avenir fait d'espérance. Ma prière ce matin pour nous tous, c'est aussi celle que Paul faisait aux Romains dans Romains 15, 13. Il disait « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » L'espérance est une chose formidable. C'est une chose qui nous permet de vivre, qui nous permet d'avoir comme une ancre, comme il est dit au verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Vous vous souvenez que l'auteur de la lettre mettait en garde ses lecteurs et ceux à qui il s'adresse aujourd'hui en disant que si on ne cherchait pas à croître spirituellement, c'était peut-être le signe qu'on n'était pas vraiment sauvé et qu'on était exhorté à poursuivre avec zèle, avec des efforts, la maturité spirituelle. Et cette maturité, elle passe par la mise en pratique de ce que la Bible nous enseigne. Au verset 9 qu'on a lu dans ce passage aujourd'hui, il veut nous rassurer en disant que même si on n'a pas grandi assez vite, on n'est pas rejeté par Dieu. Il a donné, on ne va pas y revenir, un avertissement sévère. Et on a vu que certains pensent que ça veut dire qu'on n'est jamais sûr de son salut. Et la conclusion qu'on avait vue, c'était que pour être sûr de son salut, la meilleure façon, indépendamment de tout débat théologique, c'était de foncer avec le Seigneur, de croître dans notre vie spirituelle, de porter du fruit. C'était le signe qu'on grandissait et on n'avait pas à se demander si on risquait de perdre son salut. Si vous êtes soucieux d'avoir commis le péché impardonnable et d'avoir peut-être perdu votre salut, je vous affirmais que ça n'est pas le cas, parce que si c'était vraiment le cas, si vous aviez commis ce péché qui consiste à rejeter Dieu et son Saint-Esprit qui vient vous parler, vous vous en moqueriez comme de l'an 40. Donc le fait que vous posiez la question « Est-ce que j'ai commis ce péché qui fait que je ne serai pas sauvé ?» c'est bon signe. Vous pouvez vous reposer dans le fait que le message de la Bible, c'est que Jésus prend soin des gens qu'il sauve. Il dit que ceux que son papa lui confie, il ne les laisse pas tomber. Nous pouvons être sûrs de notre salut, mais c'est vrai qu'il a parlé de ceux qui ont rejeté, de ceux qui se sont qui ont écarté vraiment. C'est un acte où on refuse le salut de Jésus-Christ. Et malheureusement, on a cette liberté, mais tant qu'on ne rejette pas la foi, tant qu'on n'essaie pas d'être sauvé par un autre moyen que par le moyen de Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, on est en paix. Et là, après avoir dit ces choses qui sont souvent utilisées d'ailleurs par Satan pour mettre le doute dans le cœur des chrétiens et les rendre incapables de produire du fruit. Si on est tellement préoccupé par « est-ce que je suis sauvé ou pas ? Est-ce que Dieu peut encore me pardonner ?» on ne va pas aller évangéliser, on ne va pas aller servir Dieu, on ne va pas se mettre en position de faire grandir le royaume, on va être replié sur soi. Et là, il veut dans ce passage, le passage précédent, c'est un peu, j'aime bien ce que disait un des pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce n'est pas les papas de l'Église, mais c'était des responsables de l'Église des premiers siècles qui avaient une certaine notoriété spirituelle par leur vie, par leur message. Et il y en avait un qui s'appelait Jean Chrysostome, qui était né à Antioche vers l'an 350 à peu près. Il était archevêque de Constantinople, Istanbul ou Constantinople. Et son nom, Chrysostome, c'était Bouche d'or. C'était un surnom en fait, parce qu'il prononçait les paroles de Dieu. Et il disait que dans le passage précédent, l'auteur ou Dieu voulait faire peur avec ses mots plutôt qu'ils aient à regretter leurs actes. Ça, c'est toujours bien d'entendre des mots et d'avoir peur plutôt que de ne pas avoir peur et de faire des actes qu'on va regretter. Donc il voulait leur faire peur avec ses mots plutôt qu'ils aient à regretter leurs actes. Et là, maintenant, Il veut les encourager. Il veut leur donner cette espérance qui, si l'on en croit nos rats du début, peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Il y a le petit lapin Duracell qui va plus loin, mais les petits chrétiens avec l'espérance de Christ, ils peuvent aller au moins beaucoup plus que 130 fois plus loin que ceux qui n'ont pas l'espérance de Christ en eux. Il va se mettre à... Il prend tout de suite un ton... J'aime bien le contraste entre le verset 8 et le verset 9. Il parle comme illustration de ceux qui sont tombés, ceux qui ont délibérément choisi d'écarter Jésus, qu'il est impossible de les amener à une nouvelle foi à changer d'attitude. Et puis il parle d'une terre arrosée de pluie fréquente qui produit de bons fruits. Mais il dit, si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ça, c'est un peu des paroles qui résonnent en nous. Mais il dit tout de suite, même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que pour vous, ce n'est pas le cas. Votre foi qui est associée au salut, elle est réelle, elle est présente. Le mot bien-aimé, c'est le mot qui est basé sur le mot agapé, cet amour de Dieu pour nous. C'est ceux qui sont aimés par Dieu, ceux qui sont aimés divinement et qui sont aimés par l'auteur de la lettre aussi, nous parlons ainsi bien-aimés. Tout de suite, on se relaxe, on se calme, comme on dit. Et il nous dit, je vais vous montrer qu'en fait, vous avez toutes les raisons d'être encouragés. Vous avez toutes les raisons, d'être confiant dans l'avenir, dans votre vie chrétienne. Et il nous dit, une des premières raisons, de ne pas vous décourager, c'est que Dieu vous connaît. Et Dieu se souvient de vous. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. On y revient, l'espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Dieu ne vous a pas oublié. Je vous invite à noter ce verset Hébreux 6:10. C'est un verset que vous pouvez rappeler à des amis chrétiens qui passent par la difficulté. Lorsqu'on vous demande de signer une carte pour des missionnaires, c'est souvent un bon passage à rappeler, Hébreux 6:10. Il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est un de mes passages favoris. Dieu n'est pas injuste. Autrement dit, ce serait quelque chose de grave pour Dieu que d'oublier ce que vous faites pour lui. Ce que j'aime bien, c'est que Dieu a une mémoire sélective. Ce que j'entends par là, c'est que si on regarde d'autres passages, comme Hébreux 8:12 nous dit « Je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu se souvient des bonnes choses qu'on peut faire pour son service, à son service, en aimant les autres, en le servant de mille et une façons, mais il oublie nos péchés. Ça, c'est de la mémoire sélective formidable. C'est différent. Souvent, on utilise ce terme, la mémoire sélective, de façon négative, en disant « Mes enfants ont une mémoire sélective. » Ils oublient de faire les tâches qui leur incombent, les petites corvées qu'ils doivent faire. Par contre, ils se rappellent des promesses qu'on leur avait faites d'aller voir tel film ou d'aller se promener à tel endroit qui les intéresse. Dieu a une bonne mémoire sélective. Il oublie nos péchés, il les met au fond de la mer, ils sont aussi loin de nous que l'Est l'est de l'Ouest, mais il décide de ne jamais nous oublier. Il n'oublie pas nos bonnes actions. On avait vu dans Amos 8:7 aussi qu'il avait de la mémoire. C'est une source d'encouragement que de savoir que Dieu vous voit, Dieu se souvient. Si on base notre estime de nous-mêmes sur les compliments que l'on nous fait, que d'autres hommes ou femmes peuvent nous faire, à ce moment-là, on s'expose à un grave danger. C'est que ces compliments ne viennent plus ou ne viennent pas. Et à ce moment-là, si on attend cela, on peut tomber dans justement un certain désespoir, se dire « personne ne s'intéresse à moi. Je suis là, c'est samedi matin, je suis venu faire le ménage à l'église. Et à part Nancy qui est là avec moi, personne ne le sait. » Puis je ne peux pas m'acheter un t-shirt qui dit « Je suis venu faire le ménage samedi, et vous ?» Personne ne prête attention à moi. Même Pierre, il ne sait même pas que je suis venu. Et pourtant, quelqu'un se rappelle, quelqu'un voit et n'oublie pas. Et c'est Dieu, et c'est le plus important des témoins que vous puissiez souhaiter. Il n'est pas injuste. Ce serait en contradiction avec sa justice. C'est fort, ça, pour que l'Esprit Saint, Dieu lui-même, par son Esprit, nous dise que oublier l'œuvre que vous pouvez faire, ce serait injuste de sa part. Et on sait que Dieu est parfaitement juste. Il ne peut pas en être question. Il ne peut pas être question d'injustice de la part de Dieu. Donc, soyez encouragés. Dieu voit ce que vous faites pour lui. Dieu vous connaît. Nous désirons que chacun de vous, l'auteur, l'Esprit Saint, ne s'adresse pas à la foule, aujourd'hui, on entend les politiciens qui nous disent « mes amis », même s'ils n'ont jamais... Il sera incapable de dire votre nom, mais c'est mes amis, luttons et pour la victoire. Non, Dieu est un Dieu personnel, dans le sens où il fait cas et il sait distinguer et reconnaître chaque personne. Ça, c'est remarquable. Savoir que même si personne ne vous connaît, si vous êtes nouveau dans une ville, dans un endroit, dans un travail, Vous avez l'impression que tout le monde se fiche de vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes sur le cœur de Jésus. Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Ésaïe 45, 3, il est dit aussi, je parle encore de Moïse, « Je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom. » Tout ça, on pourrait multiplier. Alors là, j'ai deux exemples sur Moïse. Vous me direz, « Ouais, mais c'est Moïse, bien sûr, tout le monde connaît Moïse. » Non, Dieu nous donnera même un nouveau nom, chacun de nous. Est-ce que vous êtes demandé quel serait votre nouveau nom? Joe, Enrico, pour moi, c'est un joli nom, Enrico. Ça sonne le soleil, Enrico. Dieu est un Dieu qui donne une importance vitale à chaque personne. Dieu a tant aimé le monde, alors là c'est général, mais on peut dire il a tant aimé Pierre, il a tant aimé, j'allais dire Pierre parce que je vois l'autre Pierre, il a tant aimé Élodie, Héloïse, etc. Vous pouvez personnaliser, Dieu veut que vous sachiez qu'il vous connaît personnellement et qu'il n'oublie rien, qu'il est au courant de votre vie, de vos difficultés. Il est plein d'amour. Et il souhaite qu'on ait du zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Efforcez-vous. Pour un autre passage, on avait parlé du mot spoudazo. C'est ce même mot que j'aime bien parce que c'est un mot énergique. Spoudazo, arrêtez. Faites tous vos efforts pour conserver jusqu'à la fin un vague espoir que peut-être Dieu existe après tout. Non, une pleine espérance. Cette assurance d'un bien à venir. Parce que c'est très important, si vous avez cette espérance, si vous faites des efforts pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance, vous n'allez pas vous relâcher et vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. C'est une expression qu'il aime bien et il nous invite à ne pas nous relâcher. Le mot qui est traduit ainsi, c'est, on pourrait traduire ça aussi par devenir indolent. Indolence, on se moque de ce qui se passe. Devenir nonchalant. Je crois bien que l'étymologie du mot nonchalant, c'est celui qui ne marche pas. Un chalant, c'est quelqu'un qui marche dans la rue. Et l'idée du mot grec, c'est justement de quelqu'un qui ne court plus, quelqu'un qui ne fait plus d'efforts pour avancer. Et ma prière, c'est que aucun de nous ne devienne indolent et n'arrête de marcher avec Dieu vers plus de Dieu, vers plus de Jésus, vers plus d'espérance. Parce que si on fait preuve de ce zèle, on fait des efforts pour conserver cette espérance, on va imiter ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Donc c'est, encore une fois, il veut nous encourager, Dieu se souvient de vous, et il a de bonnes choses en provision pour vous. C'est pas nécessairement facile, il faut faire un effort sur vous-même. Tout dans notre entourage, dans notre monde, tend à nous dire « non, c'est invisible, ces choses-là, ça ne veut rien dire ». Il nous dit que si on ne se relâche pas, si on persévère dans la foi, On va imiter ceux qui ont reçu l'héritage promis. On entend parler des fois de riches personnes qui confient un héritage à des héritiers, mais qui leur donnent une épreuve à faire. Et c'est pas toujours évident, même s'ils ont le même nom, si pour recevoir l'héritage, il peut y avoir quelque chose à faire. Dieu nous dit que l'héritage promis, c'est la vie éternelle avec lui pour toujours. C'est être en présence de Jésus-Christ. C'est d'être en l'absence pour l'éternité de la présence du péché. De passer. Alors je sais que quand on pense au paradis, on a l'impression qu'on va s'ennuyer. Il n'y a pas le câble au paradis, zut alors. On ne va pas pouvoir se distraire comme on fait ici. Sachez que Dieu prépare, et Jésus part préparer une maison pour vous. Je crois qu'il nous connaît encore une fois personnellement et qu'il va préparer quelque chose pour chacun d'entre nous qui va nous combler au-delà de toute espérance. On peut lui faire confiance, ça va être bien. On ne sait pas trop exactement comment ce sera, même s'il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de nous faire une idée de ce que ce sera. Et il y a un très bon livre qui s'appelle « Le paradis », je ne sais pas si ça a été traduit, mais qui nous montre tous les versets de la Bible qui parlent de cet état futur avec Dieu. Pour recevoir cet héritage, il faut la foi et la patience. Il faut les deux. Il faut les deux. Souvent, on se dit, je pourrais avoir la foi, mais je suis trop impatient. Je veux bien croire que c'est promis, mais c'est pas arrivé tout de suite. Ou à l'inverse, on peut être patient. On peut se contenter de refaire tout le temps la même chose. Il y a des gens pour qui la routine n'effraie pas. Moi, j'aurais tendance à être comme ça. Je peux manger le même sandwich pendant des années. C'est un défaut, mais en même temps, c'est une qualité parce que ça, vous pouvez être patient parce que bon, mais il faut les deux, la foi et la patience. Et une deuxième raison d'être encouragé, de ne pas se décourager, c'est que Dieu va accomplir ses promesses. Dieu accomplit, elles sont sûres, ses promesses. On peut compter sur elles. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Et il reprend comme exemple Abraham. Encore une fois, c'était un des héros des Juifs de l'époque, c'était un des héros de ces chrétiens messianiques qui étaient tentés de laisser tomber la foi en Jésus-Christ et revenir à l'ancienne religion de l'Ancien Testament, mais ils savaient qu'en parlant d'Abraham, il allait avoir leur attention. Et il leur dit qu'en fait, Abraham a reçu une promesse de Dieu. On n'a pas vraiment le temps de revoir dans la Genèse les passages qui déclarent comment Dieu a accompli ses promesses vis-à-vis d'Abraham. Mais notez juste dans Romains 4, 18, il est dit que espérance contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations selon qui avait été dit « Telle sera ta descendance ». Et ça, c'est une allusion à la Genèse où il est expliqué qu'à 75 ans, Abraham avait reçu la promesse de Dieu qu'il deviendrait une grande nation. On trouve une première promesse dans Genèse 6 et puis après dans Genèse 12. C'était pas évident. Il allait au café et il disait à ses amis « Je vais devenir le père d'une grande nation. » Ah bon ? Et combien tu as d'enfants ? Ben, pour l'instant, aucun. Et quel âge as-tu ? 75 ans, tu n'as aucun enfant et tu vas devenir le père d'une grande nation. Et les gars, vous avez entendu ? Il y a Abby, là, il débloque, là. Il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire qu'il a fait confiance à Dieu malgré le fait que tout semblait contraire à vue humaine à cette espérance. Et puis il a dû attendre 25 ans. Sa femme est restée stérile. Il a essayé avec elle de résoudre le problème en ayant un enfant avec une de ses servantes. Ça n'a pas été une bonne idée. Finalement, à 100 ans, elle avait 90 ans, Sarah lui a donné un fils, Isaac. Et puis en même temps, plus tard, quand Isaac était un jeune homme, Dieu lui a demandé de le sacrifier pour tester sa loyauté. Genèse 22, 1 et 2. Abraham était prêt à obéir. Au dernier moment, Dieu l'a empêché de commettre le sacrifice. Il a dit dans Genèse 22, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. » Il aurait pu se simplifier la tâche en disant « Ta descendance sera aussi nombreuse que les galets qui sont sur la promenade des Anglais. » Non, il a parlé du sable, des grains de sable. Il l'a obtenu, Isaac est devenu le père de... Leur fils est devenu le père de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, et Abraham est devenu le père de tous les croyants. Et Dieu a juré, il avait fait un serment. Généralement, quand vous faites un serment, vous ne dites pas « Je jure sur la tête de mon hamster » que je viendrai à ton anniversaire. On jure sur quelque chose de plus grand que soi. Le problème avec Dieu, c'est que il a dû jurer par lui-même. Il n'y a rien d'autre au-dessus de lui. Donc c'est pour ça qu'il est allusion au verset 16. Les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Dieu nous a promis, nous a fait des promesses. Il est intervenu par, il a fait des promesses, et puis donc au verset 17, il est dit « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. » Irrévocable, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. C'est quelque chose qui est immuable, qu'on ne peut pas reprendre. Il a fait cette promesse et il a ajouté un serment. Il a juré par lui-même, le passage qu'on vient de lire dans Genèse 22, 16 à 18. Et donc, verset 18, il est dit que par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Les deux actes irrévocables, les choses sur lesquelles il ne peut pas revenir, c'est justement toutes ces promesses. Encore une fois, je vous invite à vous procurer un de ces petits guides des promesses de Dieu. Ces promesses et ce serment. Il ne peut pas revenir parce qu'il ne peut pas mentir. Il est dit dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les hommes ont tendance à mentir. Si vous n'avez jamais menti, jetez-moi la première pierre. Et malheureusement, on le voit de plus en plus avec les révélations des journalistes, Canard Enchaîné et autres, que le mensonge est humain. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'Adam pour avoir du regret, ce qu'il dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas ? Dieu, il ne peut pas mentir. Vous dites, tout est possible à Dieu. Non, il y a des choses qui lui sont impossibles. Il ne peut pas revenir sur ses promesses, sur ses, sur ses serments et il ne peut pas mentir. Des fois, les gens disent, est-ce que Dieu est capable de faire un rocher si grand qu'il ne puisse plus le bouger ? Question stupide. Mais il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il vous le dit, il va l'honorer. Et donc, la foi et la patience, la foi et la conscience, la confiance, pardon, ça honore Dieu. C'est pas comme la dépression ou le désespoir. Il est impossible que Dieu mente. Nous sommes puissamment encouragés. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Puissamment encouragés. On a vu dans nos études, lors de nos réunions de prière, on commente quelques versets, on regarde un peu ce qu'ils veulent dire et on a vu que le mot « encourager », c'est le même mot que le mot du Saint-Esprit. C'est celui qui vient à côté pour encourager. C'est le paraclet. Et ça, c'est le même mot. On est puissamment, on a un espoir fort. C'est Spurgeon qui disait, le grand prédicateur anglais, qui disait « Cet encouragement puissant, il ne dépend pas de votre condition physique. » Il ne dépend pas du fait que vous êtes ou pas excité par une réunion publique ou la communion fraternelle des chrétiens ou par la musique très forte, par quelque chose un peu extérieur. Non, c'est un encouragement puissant en vous. C'est quelque chose qui ne peut pas être remis en cause par la logique humaine. On peut vous dire, c'est bien beau ta foi, mais regarde tout ce qui se passe autour de toi, regarde les politiciens, regarde les maladies, le cancer, les accidents, la pauvre Anaïs, on ne sait pas si elle va bien s'en sortir ou pas. Merci pour vos prières pour elle. Non, cette espérance, cet encouragement puissant, rien ne peut l'attaquer par la logique humaine. Et même notre conscience qui peut être coupable par les mauvaises choses que nous avons commises, il veut nous dire, vous êtes pardonnés, je vous encourage puissamment. Et puis il fait allusion au fait que notre seul refuge, ça a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Toujours cette question d'espérance. D'autres versions disent qu'on a un refuge d'espérance. Et dans l'Ancien Testament, saisir l'espérance, c'était physiquement, on se saisissait des cornes de l'autel où on avait offert un sacrifice pour recevoir le pardon. Mais ça fait aussi penser, ce refuge d'espérance, aux cités de refuge. Les cités de refuge, si vous vous souvenez, dans la Bible, c'était des lieux où celui qui avait commis un crime par inadvertance, par accident, pouvait fuir et là il était protégé de la vengeance d'un proche parent du défunt. Et afin de pouvoir fournir ce pardon, Dieu avait donné l'ordre de créer des cités de refuge. Qui en fait sont un type, une pré-représentation, une préfiguration de Jésus-Christ, qui est notre vraie cité de refuge. On peut courir à lui et être en paix, en sécurité. Là aussi, il est intéressant de faire un peu un parallèle entre ces cités de refuge et Jésus-Christ. Sont facilement accessibles. Elles étaient positionnées dans le territoire qu'en moins de 24 heures, en quelques heures, on puisse s'y rendre. Un peu comme les départements et les chefs-lieux de départements faisaient que, quand on les a dessinés à l'époque après la Révolution, c'était des endroits où on pouvait se rendre en une journée de cheval. Là aussi, ces endroits étaient facilement accessibles. Tout comme Jésus est facilement accessible, nous pouvons accéder au trône de la grâce. C'était ouvert à tous. Ce n'était pas seulement pour les Juifs, c'était pour les païens aussi. Ils pouvaient se réfugier et Jésus est un refuge pour tous les hommes et toutes les femmes. C'était aussi un endroit où l'on pouvait demeurer. On pouvait rester autant de temps qu'on voulait. Si on voulait être en sécurité, on restait dans la cité de refuge. Si on veut être en sécurité, on reste en Jésus-Christ. Et c'était la seule solution quand on était en danger. Sans cette cité de refuge, c'était la mort certaine. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Mais il y avait une différence essentielle. C'est que les cités de refuge, elles n'étaient possibles que pour les innocents, ceux qui n'avaient pas commis volontairement le crime. Le coupable, nous pouvons venir à Jésus-Christ, même si nous ne sommes pas innocents, ce que nous ne sommes pas. Alléluia! Il continue en disant « Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme, elle pénètre derrière le voile. Là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek, est entré pour nous en précurseur. » Troisième raison d'avoir du courage, Dieu se souvient de nous, ses promesses vont être accomplies. Jésus, maintenant, la troisième raison essentielle, c'est que Jésus va nous mener à la gloire dans les cieux. Il est notre précurseur, il est parti en éclaireur. Ce qui est intéressant, c'est cette image de l'encre solide et sûre de l'âme qui représente l'espérance que nous avons. Elle était même, cette encre, c'était un symbole chrétien. Aujourd'hui, on a souvent le petit poisson qui est utilisé parce que les initiales de Jésus Sauveur, Fils de Dieu, ça donne en grec le mot qui veut dire poisson. Donc c'était un signe de ralliement secret des chrétiens. Mais pendant longtemps, l'encre, cette encre d'espérance était un signe de la foi chrétienne. Nous avons cette espérance comme une encre solide. Notre vie va être un long fleuve tranquille. Non. On a tous déjà fait l'expérience de difficultés. On sait qu'il va y avoir des vagues, il va y avoir des tempêtes. Il va y avoir des ouragans peut-être dans nos vies, mais nous pouvons avoir cette ancre qui nous assure une relative stabilité. La vie sur terre, c'est la mer. Notre âme, c'est comme un bateau. Le fond invisible de la mer, c'est une réalité, c'est comme les choses célestes qui sont invisibles. Et l'ancre, elle tient en place par la foi dans la réalité des choses invisibles. On a bien sûr l'image de l'ancre, et on se dit qu'une ancre, elle, pour marcher, on ne doit pas la voir. Si vous avez demandé à votre épouse de jeter l'ancre et que l'ancre est toujours sur le pont et que vous êtes près de la côte, qu'il y a des vagues, c'est mauvais signe. L'ancre, elle ne marche que quand on ne la voit pas. L'ancre, pour marcher, elle doit être attachée au bateau. Il doit y avoir un lien, il doit y avoir un filin. Et cette ancre, Elle nous assure de quelque chose de merveilleux. Nous sommes, c'est intéressant, il est dit que elle pénètre derrière le voile. Elle pénètre derrière le voile, et ça fait allusion au tabernacle Oui, il y avait d'abord le parvis, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le saint des saints. Et on a rappelé plusieurs fois, on va le faire encore, on va en parler de grands prêtres, une fois seulement par an, et après avoir offert des sacrifices, une seule personne pouvait entrer dans ce lieu. Et cette ancre solide, elle est ancrée. Elle est ancrée en Dieu au-delà du voile. Elle est dans la réalité de la gloire divine. Notre foi, elle est ce filin qui nous relie à quelque chose de solide qui va nous, à laquelle on peut s'arrimer, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Il y a une autre interprétation de ce terme d'encre, et on dit que dans les ports de la Grèce antique ou de l'époque antique, il y avait souvent un pilier sur le port près de l'eau qui était solidement fixé, et les bateaux pouvaient s'attacher à cette bite d'amarrage et être en sécurité. Mais souvent, lorsqu'il y avait un bateau qui ne pouvait pas s'approcher trop près de cet endroit, on envoyait un petit bateau avec un filin, et on appelait ce petit bateau le précurseur. D'où cette image aussi qui peut être utilisée, que Jésus, c'est lui qui nous relie, qui nous ancre. C'est la foi en Jésus-Christ qui est notre ancre d'espérance. Seule chose, c'est qu'on sait que Jésus ne faisait pas partie de la tribu des Lévites. Donc il n'avait rien à faire dans le saint lieu, mais on en a déjà parlé, on va en reparler beaucoup. En fait, lui, il était prêtre à la façon de Melchizédek. Et si vous voulez en savoir plus sur Melchizédek, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces promesses, ces encouragements fantastiques que tu nous donnes, Seigneur. Tu penses à chacun de nous, tu nous connais, tu nous as fait des promesses que tu vas tenir, et tu vas nous emmener par Jésus-Christ dans la gloire éternelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.